pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Et les travaux des uns nourrissent les travaux des autres. On n'a même pas besoin de se parler. On peut avoir un petit coup de stress. On lève les yeux et voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Un bois de chêne, des prairies, la côte rouennaise. Et ça, je pense qu'on se sent en tout cas différemment. Dans, l'implication personnelle est différente.
Papa, il m'asseyait sur le fourneau. J'ai toujours grandi avec ces odeurs. C'est des odeurs que je continue à sentir tous les jours dans la cuisine. On utilise les épices parce que c'est l'histoire de Saint-Malo, c'est l'histoire de la région de la Côte d'Émeraude. Et ça donne un sens à ce que l'on fait.
Ils ont 30 ans ou presque, ils sont chefs cuisiniers, ils ont des convictions, un style, ils incarnent déjà le renouveau de la haute cuisine française. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec deux talents qui portent un nom célèbre dans la gastronomie et qui sont en train de se faire un prénom. Mon premier représente la quatrième génération d'une grande famille de cuisiniers. Il est chef de cuisine auprès de son père Michel dans un restaurant 3 étoiles. Ça se situe à Ouche, près de Roanne, département de la Loire. Son prénom, César. Son nom, Trois Gros. César Trois Gros, bonjour.
Bonjour François Régis.
Vous allez bien ?
Ouais, en pleine forme.
Mon second est en Bretagne. Il pratique une cuisine marine et épicée dans le sillage de son père Olivier. Il est au fourneau du Coquillage, la table étoilée du Château Richeux à Cancale. C'est Hugo Rollinger, bonjour.
Bonjour François Régis.
Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous depuis vos fiefs qui ne sont pas très près de Paris, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est votre première radio ou presque ?
Ouais, c'est au-delà des radios régionales. Ouais.
Oui, c'est ça. On va essayer de voir si ce que vous avez dans le ventre aujourd'hui et ce que vous avez aussi dans la tête. Et on va voir que vos têtes sont plutôt bien faites. On va s'en apercevoir tout au long de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Notre chroniqueuse qui nous annonce aujourd'hui que le fric, c'est chic.
Ouais, mais pas bling pour autant.
Oui.
Si on parle de fric, on parle plutôt de pas de billets ou pas d'espèces sonnantes et trébuchantes.
Okay.
Mais de fricas, de friquets, de friquets,
oui,
faric,
oui,
et fric.
Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est des céréales?
Une graine orientale,
voilà,
qui est en train de se frayer un chemin.
Vous allez nous
vers le succès,
faire découvrir ses, ouais, vertus tout à l'heure. Et l'un de nos chroniqueurs vins, Jérôme Gagnès, bonjour.
Bonjour à tous.
Dans nos verres aujourd'hui, Jérôme.
Dans nos verres, des petites surprises pour Hugo et César. Des vins qui, j'espère, leur plairont beaucoup.
Eh bien écoutez, ils vont tremper leurs lèvres dans des verres que vous allez leur tendre. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure en milieu d'émission à la console. Laurane Thomas, Mathias Alléon, Nadia Chougui. Retrouvez le podcast Nos Infos, les recettes de l'émission sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Juste avant de retrouver nos invités, je vous adresse, chers auditeurs, un faire-part de naissance. C'est un bébé bien joufflu de 3,2 kg qui vient de naître. Il sort en librairie dans quelques jours. Il est baptisé « On va déguster la France ». Ben, c'est notre nouveau livre, en fait. La fine équipe dont on va déguster a travaillé dessus pendant 2 ans. C'est, pour le décrire, un gros millefeuille de 450 pages, coédité par Marabout et les éditions de Radio France, qu'on pourrait définir comme une encyclopédie, un pêle-mêle, un fourre-tout. Les éditeurs aiment bien appeler ça des miscellanées. Il a pour ambition de croquer le patrimoine culinaire français par tous les bouts et par tous les goûts. Voilà. Alors on y trouve par exemple d'une page à l'autre des sujets aussi variés que la cuisine des mots dans l'œuvre de Rabelais, une leçon de macaron par le grand pâtissier Pierre Hermé, l'art du steak tartare. Je me tourne vers Jérôme Gagnès qui me parlait d'un tartare qu'il a dégusté il y a pas très longtemps à Paris. Le rôle de la table par exemple dans le cinéma de Claude Sautet, un tour de France des soupes de poisson. Haha. Des soupes de poisson, ouais, de la bouillabaisse jusqu'à la cotriade. Ça vous parle, Hugo Rollinger? Ou une page savante, n'est-ce pas, chère Elvira, sur la famille Patachou?
Ah oui, j'ai une passion pour la Patachou. On la trouve partout depuis toujours, de la gougère à l'éclair,
voilà,
en passant par la religieuse et plein d'autres spécialités, sucrées comme salées. Et on a d'ailleurs, je crois, dans le livre, enfin, je crois, j'en suis sûre, la recette de la religieuse caramel au beurre salé, signée Christophe Michalak.
Absolument.
Qui vaut le détour.
Jérôme Gagnès a même signé, par exemple, un article fort intéressant sur le rôle pas toujours compris du soufre dans le vin.
Oui, exactement. C'est un grand incompris du vin. On en a presque toujours besoin d'un tout petit peu.
Voilà, et ça vous nous l'expliquez dans ce livre. On a même mis à contribution la relève de la gastronomie française. Hugo Rollinger, César Trois Gros, vous nous avez confié chacun une recette de votre répertoire. Cosa croquante, une super recette signée César Trois Gros. Hein. Il ouais, s'agit ouais. d'une salade de carottes râpées, mais d'un genre un peu spécial.
Ouais, des carottes frites,
oui.
Mélangées avec des carottes crues, donc ce qui amène avec une proportion bien équilibrée. Un mélange de textures, donc de goûts très intéressant, puis de l'ail, des câpres, des herbes, un peu de piment.
Un assaisonnement assez vif.
Ouais.
Et vraiment, elle est patente. Vous leviez les yeux au ciel, Jérôme Genet, je peux vous assurer que c'est une recette absolument splendide.
J'adore les carottes râpées.
Tomates, palourdes, algues et curry corsaire pour Hugo Rollinger. Ça, c'est une recette qu'on retrouvera aussi.
Oui, c'est des associations qui marchent bien, c'est-à-dire d'associer la tomate à l'iode de la palourde aux algues.
Oui.
Et toujours avec ces petites notes, un peu ces nuances qui jalonnent le paysage un peu breton.
Oui.
Épicé. Donc on vient juste rajouter un peu une huile de curry corsaire un peu à la fin.
Absolument, et ça donne une recette assez prodigieuse. Voilà, plus de 350 sujets, 375 recettes, des centaines de portraits, des cartes, des adresses, des tours de main. C'est un ouvrage collectif, j'insiste dessus, car 130 contributeurs, parmi lesquels des chefs, des pâtissiers, des artisans de bouche, des experts, des journalistes, des historiens, ont mis leur grain de sel dans le livre. On va déguster la France, un inventaire mordant du cornichon au menu de l'Elysée. C'est aux éditions Radio France et Marabout, ça sort le 16 novembre. Et on aura d'ailleurs le plaisir de vous retrouver avec quelques-uns des chroniqueurs samedi prochain, le 18 novembre, à la librairie de Paris, place de Clichy, dans le 17e arrondissement de Paris, pour une séance dédicace. Et nous serons le lendemain, toute l'équipe dont on va déguster, le dimanche 19 novembre, en direct du festival Bordeaux So Good, pour une émission 100% bordelaise, en direct et en public, depuis le Palais de la Bourse. Voilà, venez nombreux, et l'émission sera suivie d'une dédicace de notre livre. Toutes les infos sont à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster. Cuisine et descendance, c'est la leçon de vie et de cuisine qu'on vous propose juste après. Encore, Benjamin Biolay sur France Inter.
L'amour, l'amour, ton anus sans étoile. L'amour, 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 toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore, encore partir. Encore, non. Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors. Century Fox présente, oulala, que les guides s'absentent. Fahrenheit, Celsius, tout augmente. On ne fait ni l'amour ni la guerre méante. Oh, oh, même dans cet albo à l'être casse-lettre. L'amour, l'amour, ton anus sans étoile. L'amour, 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 toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore, encore partir. Encore, non. Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors. Un peu encore. Je sens battre ton cœur, alors je sors et je rentre. Tu balades tes mains sur mon corps, entreprenante. Je t'aime tellement fort, j'en ai des fourmis vers le ventre. Pour toi je vote à droite, je vote à gauche et au centre. Je sors et je rentre, et je rentre et je sors. Allons chérie, changeons de bord. Une fois contente, puis revenons encore. Alors je...
Ouais, en plus, là, on a un beau temps pour ramasser les algues. Là, il fait pas trop chaud. Il y a cette pluie, ce côté un peu mystique. C'est pas un temps à aller à la plage, mais c'est un temps à ramasser des algues. On a de la belle laitue de mer. La dulcée est belle aussi. Et ça, c'est une... On appelle ça une algue épave, c'est-à-dire qu'une algue qui s'est décrochée de son caillou. Ça, c'est du combu royal, quoi. Ça, c'est une algue qu'on va faire sécher puis affiner, justement, quoi. Parce qu'on va pas pouvoir l'utiliser directement. On va lui donner 1 an d'affinage ou 2 ans d'affinage, quoi. Qui va perdre ce côté marin, mais qui va avoir plus de richesse et de complexité dans les goûts, quoi. Ça, c'est une variété d'agar, ça. Elle est fraîche comme ça. C'est entre le crustacé, limite un goût de carapace d'araignée, un peu. Avec le poivre en plus. C'est vachement bon, fraîche.
Un extrait de l'émission Des Racines et des Ailes, diffusée sur France 3 il y a quelques semaines, où l'on vous voit, Hugo Rollinger, dans votre élément, c'est le moins qu'on puisse dire. Et votre élément, c'est la mer. Mais la mer, c'est désormais aussi votre terrain de jeu culinaire. Je vous propose, pour présenter un peu votre style culinaire, votre façon instinctive et je dirais presque sensuelle d'appréhender la mer en cuisine, je vous propose une plongée immédiate dans votre univers culinaire à travers une recette très spontanée que vous nous avez apportée et qui a le goût des abysses.
Je vous ai apporté une huître de plongée,
oui,
de notre pêcheur qui s'appelle Philippe Orveillon.
Qu'est-ce que ça signifie, huître de plongée?
C'est une huître, déjà Philippe c'est un pêcheur, plongeur, cueilleur.
Wow.
C'est-à-dire qu'il va au fond de l'eau et il va juste venir cueillir les huîtres qui semblent à maturité ou les Saint-Jacques qui semblent à pleine maturité sans détruire les fonds et tout en respectant ce fond de la mer, ce jardin marin.
Vous êtes en train de nous dire qu'il s'agit d'huîtres sauvages, rien à voir avec l'ostréiculture.
Ah oui, c'est une huître qui est totalement sauvage. Et elle a des goûts vraiment presque abyssales. Très iodé, presque métallique.
Oui.
Et on va venir juste lui rajouter une composition de poivre.
Déjà, à l'œil, elle est particulière.
Ouais, elle est belle.
Ouais.
Mais encore, c'est vrai qu'elle a.
Elle est charnue. Oui. On sent qu'elle a été un peu battue par les tempêtes, par les courants. Elle est plus difficile à ouvrir qu'une huître d'élevage. Mais le.
Vous avez un peu forcé sur la lame, ouais.
Ouais. Mais le trésor que l'on découvre est encore plus beau.
Alors, comment vous la condimentez? Vous en étiez à un petit mélange d'épices, car c'est dans l'univers familial, évidemment, cette façon de mélanger les épices du bout du monde avec des condiments aussi très locaux, comme les algues dont vous parliez dans l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est quel mélange?
Poivre des mers. C'est une dernière composition de poivre qu'on vient de faire. Donc, c'est un mélange de 2 poivres noirs,
oui,
d'un piment fumé, d'un poivre Sancho de printemps.
Alors là, on parle du Japon, hein, Sancho.
Ouais. Et de 4 mélanges d'algues, à la fois du kombu, de la dulcée, de la laitue de mer et de la nori.
Étonnant.
C'est comme si, en fait, il y avait un galion qui avait ramené une cargaison de poivre et ce galion avait fait naufrage. Et dans les amphores, les poivres s'étaient mélangés avec les algues un peu.
Et les 4 algues, on les trouve toutes chez vous? Même, oui, la nori?
Ah oui, on les trouve chez nous aussi.
La nori, c'est la fameuse algue noire qui sert à faire l'enveloppe des maquis dans la cuisine japonaise.
Notamment, mais qu'on trouve aussi sur les côtes
bretonnes. Il y a plusieurs variétés de nori, ouais. Et il y a une variété qu'on trouve sur les côtes bretonnes.
Je vous propose un petit jeu, Hugo Rollinger. Il y a juste en face de vous un cobaye consentant qui est votre ami dans la vie, qui est César Troisgros, lui aussi chef. Vous avez tous les deux autour de 30 ans. Et bah, le petit jeu, ça va être de gober cette huître, ou plutôt de la mâcher, puisqu'il paraît qu'il faut les mâcher. Ouais. Et d'autant plus les mâcher que cette huître est condimentée par ce poivre des mers. Alors, sensation, réaction.
Mais j'aime bien faire boire la tasse à César de temps en temps.
C'est la quintessence de la baie de Saint-Malo. Ouais, une gorgée d'eau de mer, mais l'eau de mer d'un fond marin, quoi. On sent c'est très métallique, très très métallique.
Ça revient, ouais. Effectivement. Le goût de métal, presque dans l'amertume. Ouais,
c'est presque astringent aussi.
J'ai une première lame de fond absolument sidérante, iodée extraordinaire. Et cette petite pointe de poivre, justement, qui relève, qui
Jérôme
ne tue
Gagnèze.
Absolument pas le... Là, c'est sidérant, cette huître. Hein. C'est extraordinaire.
Avec
ça rajoute à la longueur en bouche, en fait.
C'est inouï de longueur en bouche, c'est inouï de puissance, de délicatesse. Enfin, c'est extraordinaire.
Et puis le mâche aussi, la texture est extraordinaire, c'est dense.
Et dans notre cuisine, on aime bien réchauffer la mer par un poivre.
Car les goûts ont pour vous des températures. Le goût de la mer, le goût des abysses, le goût des fonds marins, c'est plutôt dans la froideur. Le goût des épices, on sait encore une fois que c'est votre univers familial. Votre père, Olivier, a beaucoup développé cet univers épicé. Bah, là, on est plutôt dans la chaleur. Donc, on est dans ce contraste thermique,
Et autant dans les tons que dans les températures, on recherche un équilibre. Et même des fois, on a envie de complètement déséquilibrer. Donc on va rechercher une fois une froideur extrême. Ou des fois, au contraire, on va réchauffer en fonction de notre humeur, en fait.
Hugo Rollinger, on vous présente en un mot. Vous avez repris la barre il y a un an du groupe familial. Car l'écosystème fondé par votre père Olivier Rollinger, ce sont, il y a un restaurant étoilé évidemment, le Coquillage, le Château Richeux, mais c'est également des gîtes marins, une école de cuisine, une boutique d'épices, une pâtisserie salon thé. Vous n'avez pas encore 30 ans, et pourtant, cuisinier n'allait pas de soi pour vous. Vous aviez même choisi des études dans une toute autre voie. Comment s'est passée cette conversion ?
En fait, j'ai grandi devant la mer et je dévalais la rue et j'étais sur la grève. Mm-hmm. Et depuis tout petit, je suis fasciné par la mer, donc je fais beaucoup de voile, de surf, enfin bref, plein de choses en rapport avec l'océan. Et j'avais cette ligne entre ciel et mer qui est l'horizon et qui vous attire comme un aimant, quoi. Et depuis tout petit, j'ai été aussi bercé par les récits d'aventures à la fois par ma mère et par mon père. Et cet horizon, j'ai toujours envie d'aller voir ce qu'il y avait derrière.
Et vous l'avez fait, je crois.
Et je l'ai fait mes parents m'ont jamais poussé à être cuisinier, peut-être pour me protéger de ce métier-là. Donc moi, je me suis dit, je vais faire ma voie autre part. Je vais devenir marin, quoi. Marin au long cours. J'ai fait des études de marine marchande, j'ai embarqué pendant 2 ans et demi. Mais quand on est sur l'eau, on a quand même le temps de se poser pas mal de questions. Et je me suis rendu compte que l'univers des maisons de Bricourt et ce qu'avaient créé mes parents pendant 25 ans, j'avais l'impression d'en faire partie indirectement. Et je m'imaginais pas qu'un jour tout s'arrête, quoi. Et par respect par ce qu'ont fait mes parents et par cette histoire, il faut que je la continue.
Et vous avez plaqué votre boulot ?
Tout plaqué, ouais.
Et comment s'est passée la conversion ? Vous l'avez annoncé à votre père ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était un peu le sujet tabou dans la maison, quoi. Donc on n'en parlait jamais, en fait. Et ça me trottait dans la tête. Et un jour, on part à Paris pour voir la boutique d'épices avec mon père. C'était le jour de son anniversaire. C'était un hasard, hein. C'était pas du tout voulu. On courait pour prendre le train. Et là, j'arrête mon père et je lui dis « Papa, j'ai un truc à te dire. J'arrête la marine et je veux devenir marin. Qu'est-ce que je dis ? J'arrête la marine et je veux devenir cuisinier. »
Il l'assume pas encore tout à fait. Hein.
Ouais, mais je crois que je suis encore marin dans le cœur.
Vous êtes marin dans le cœur, ouais. Mais vous êtes même marin dans votre cuisine, donc tout va bien. Et comment réagit votre père ?
Et mon père, il dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? Tu me dis ça sur le quai de la gare, mais t'es complètement marteau. » Et bref, après, pendant le train, pas un mot. Et je sais qu'il a écrit un message à ses amis proches, à la fois Michel Troisgros.
Ah ben le père de César.
Michel Bras et Pierre Gagnère, ses amis cuisiniers très proches, pour leur écrire « Vous savez pas ce qui m'arrive, Hugo veut rentrer dans les maisons et veut commencer à cuisiner. »
C'était il y a combien de temps ?
C'était il y a 6 ans.
Vous aviez 24 ans.
24 ans, ouais. Et là, ils lui ont tous répondu « C'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. » Alors après, il a essayé de me dégoûter pendant 2 semaines.
Bizutage paternel en cuisine.
Et ma mère, elle a essayé de me dégoûter pendant 2 ans. Pour me dire, mais non, faut que tu sois officier de marine marchande, faut que tu sois commandant, faut que tu sois sur ma table de nuit en uniforme. Et au final, maintenant, on travaille tous les trois ensemble.
Incroyable histoire.
Et la transmission, c'est la plus belle des choses.
Ben justement, en transmission, dans le cas de la famille Troisgros, alors César, vous êtes à peine plus âgé que Hugo, je rappelle que vous êtes en plus amis dans la vie, vous échangez beaucoup, on insistera peut-être sur cette complicité que vous vivez dans la vie, et notamment en cuisine à travers des échanges, j'imagine. Comment s'est passée la transmission de votre côté ? J'ai quand même le sentiment que chez vos parents, Olivier Rollinger d'un côté, Michel Troisgros de l'autre, il y a comme une espèce d'ambiguïté de vouloir secrètement, évidemment, que le flambeau soit transmis, et en même temps, peut-être cette volonté de vous laisser le choix, ou peut-être parfois de vous protéger d'un métier dont on sait qu'il est harassant, qu'il n'est pas facile, c'est beaucoup de pression en cuisine. Mmh. Comment a été vécue la transmission dans le cas Troisgros ?
Moi, je partage avec Hugo là, les propos. Il y a une part de responsabilité. Quand on a des parents qui ont créé quelque chose d'aussi beau, et finalement, ils le créent pourquoi ? Pour le transmettre. Ce n'est pas à 15 ans, à 16 ans qu'on réalise ça. C'est pour ça que moi, j'ai commencé plus jeune qu'Hugo, mais quand même, j'ai été... jusqu'au baccalauréat.
C'était pas évident d'être
cuisinier.
C'était
pas évident, non.
Vous vouliez même faire autre chose.
Je l'ai même rejeté toute mon adolescence parce que j'en ai eu ras-le-bol d'écouter l'entourage me dire que j'allais être cuisinier depuis que j'ai des souvenirs. Voilà. Mm-hmm. On veut tout faire sauf être cuisinier.
Bien sûr.
Pour montrer qu'on peut faire autre chose.
Et finalement, le destin vous a un peu rattrapé.
Voilà,
faut préciser, César, que dans votre cas, il y a évidemment votre père Michel, mais par ailleurs, vous êtes la 4e génération. Troisgros, c'est l'un des noms les plus célèbres de la gastronomie française. Les frères Troisgros, c'est votre grand-oncle et votre grand-père quand même. Donc, il y avait aussi cette histoire très forte.
Oui, mais ça, c'est dans les gènes. Donc, on n'y pense pas. Bien sûr, il y a plus de 80 ans d'histoire. Ça ne me met pas la pression. Mm-hmm. Ça ne me met pas la pression parce qu'on se passe le relais de génération en génération, de père en fils. On se transmet quelque chose et en même temps, on s'affranchit aussi de l'héritage en le faisant évoluer. C'est un exercice familial. Regardez devant et pas regarder derrière. Et c'est tous les jours, la remise en question.
Votre statut, c'est d'être chef cuisinier auprès de votre père Michel, dans le nouvel établissement La Maison Trois Gros, qui a déménagé il y a maintenant une toute petite année, même pas d'ailleurs, c'était en février dernier. Vous êtes passé d'un établissement historique en face de la gare de Roanne à Ouche, qui est à 6 km de Roanne.
Oui, oui.
Donc plutôt à la campagne, dans un grand domaine de 17 hectares. La responsabilité d'être chef en plus de cet établissement très en vue, comment ça se passe la relation?
Chef, je sais pas, cuisinier, auprès de mon papa. Enfin, mes parents ont initié ce grand projet il y a 5 ans, mais déjà maintenant. On l'a fait ensemble, pour nous, pour mon frère, pour moi, pour la génération qui arrive, pour donner un nouveau souffle.
Donner un nouveau souffle.
Vous n'aimez pas le mot de chef, ni l'un ni l'autre. Vous aimez le mot de cuisinier.
Enfin, moi, je joue avec des légumes et des coquillages.
Et des algues aussi, accessoirement.
Et des algues et pas avec des armes. Et moi, le chef, il y a une connotation pour moi trop
militaire.
Trop militaire, ouais. Il y a des choses qui sont tellement ancrées dans la cuisine française où on doit être cuisinier comme ça, on doit être chef, machin. Ça tend à changer, mais enfin, moi, j'ai pas envie de le vivre de cette manière-là. J'ai envie de le vivre de manière assez libre.
Relation plus sensible, différente au métier.
C'est l'envie de liberté, voilà. Et la liberté, c'est quelque chose aussi que Olivier et mon père nous transmettent. Ils ont un héritage différent, Olivier et Michel, mais ils sont libres ici. Et moi, j'ai envie d'être comme ça aussi.
Très bien. Et bien justement, vous parliez de vos papas. Je vous propose d'écouter la vision que vos deux pères porte sur votre travail. On commence avec vous, César. Voici ce que votre père Michel disait de vous et de votre cuisine dans L'Heure Bleue, l'émission de Laure Adler. C'était en avril dernier.
Avec César, aujourd'hui, j'ai le sentiment que les choses s'accélèrent un peu parce que sa personnalité vient se glisser avec l'assurance et en même temps le style d'une personne de 30 ans qui voyage, qui a une formation différente de la mienne, qui a eu sa maman comme exemple, qui a eu son papa aussi, et d'autres chefs, Thomas Keller aux États-Unis, les Roca. Voilà, aujourd'hui, il y a en effet des plats qui sont très intéressants, qu'on travaille en commun, qui sont, on pourrait dire, un petit peu dans la suite de tout ce qu'on a initié jusque-là. Et c'est pour ça que je pense qu'on est moderne, parce que il y a sans arrêt l'envie de ne pas reprendre ce qui a été fait. Ou alors, si c'est repris, c'est modifié. C'est jamais tout à fait la même chose.
Michel Troisgros, parlons de vous, César. Donc, c'est votre papa. Effectivement, vous avez eu une expérience culinaire un peu partout dans le monde. Thomas Keller, quand même, grand nom de la gastronomie américaine, mais d'influence très française, à The French Laundry, en Californie. Ouais. Les frères Roca à Gérone, évidemment. Votre oncle, car vous avez un oncle frère de Michel qui travaille à Rio, Claude Troisgros. Est-ce que le fait de vous être ouvert l'esprit vers d'autres cuisines et d'avoir voyagé, justement, vous permet d'apporter votre contribution à l'héritage familial?
Oui, et en même temps, c'est logique, parce que l'héritage familial, il invite aussi au voyage. Moi, mon grand-père, il est parti au Japon en 68, et quitte son frère, il va une année au Japon pour être chef à l'ouverture du Maxim's de Tokyo. Incroyable. Mm-hmm. Donc, c'était évident pour moi, en tant que jeune cuisinier, de partir ailleurs. Mon père l'a fait, il m'a poussé à le faire, et j'avais envie de le faire.
Hugo Rollinger, votre papa s'exprime également sur votre travail à quatre mains.
Bon, alors, l'histoire de la poudre long cours, l'infusion long cours d'abord.
Et peut-être avec le Budo Sancho.
Celui du.
Ouais.
Du Wakayama, là.
Ouais. Pas mal, parce que tu vois le coco, là. La note qu'il donne.
Ouais. Ah, il arrondit un peu le tout.
J'ai travaillé des années tout seul, comme ça. Puis maintenant, des deux, quoi. D'abord, on se sent moins seul. Et puis, c'est super parce qu'il y a des choses qui arrivent, nouvelles, sur mon bureau. Puis il y a aussi toutes les idées d'Hugo, toutes ses envies. Et lui, il me jette des idées comme ça. Et c'est presque à moi, maintenant, d'articuler ces idées. Quoi. Vous savez que lorsqu'on est parents, on tente de modeler des souliers pour nos enfants pour qu'ils puissent marcher vers leurs rêves. Je dis bien on tente. de leur modeler ses souliers. Et quand il se trouve qu'un de ses rêves vient recroiser le vôtre, c'est très intense.
Bon, là on est un peu dans la vision, on va pas dire bisounours, hein, mais dans la vision un peu idyllique de l'échange père-fils, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'échange. Attendez, est-ce qu'il y a parfois des différences de vision? Est-ce que parfois il y a un conflit père-fils? Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Ou l'évolution de la signature familiale se construit aussi dans l'engueulade, la bonne franche engueulade? Non, je suis pas d'accord, papa.
En réalité, on s'engueule pas souvent, non.
D'accord.
Mais moi, des fois, je vais être assez impulsif où je vais dire des trucs, parce qu'il y a des choses qui me révoltent un peu, et en tant que bête, un peu bête blessée. Et mon père m'aide quand même à me temporiser et à le faire avec plus de réflexion. Mais les échanges sont beaux et c'est sûr qu'il y a une complicité qui s'installe à la fois entre père et fils, mais on parle pas souvent aussi entre mère et fils aussi, parce que les maisons de Bricourt, c'est papa et maman, et c'est aussi toutes les équipes qui m'aident à continuer cette aventure-là, et c'est vraiment une aventure collective. Et elle est belle parce qu'elle est collective.
César ?
Les contradictions, il y en a à nous, c'est dans la construction d'une assiette, par exemple, une partie de tennis, on se renvoie la balle et on se contrarie volontairement pour se stimuler et se pousser. Alors c'est de la contradiction positive.
C'est ça.
Et comme le dit Hugo, nous, voilà, l'équipe, l'implication aussi de l'équipe avec nous, la vie de maman, la vie de Fanny, ma fiancée, sont importants parce que elles posent des questions que des fois on se pose pas. C'est enrichissant.
Les femmes ont toujours été très importantes hein, dans l'histoire de la dynastie Troisgros. On va faire une pause et dans un instant, on va mettre les mains à la pâte avec deux produits que je vous ai demandé de choisir, deux produits fétiches qu'on va cuisiner ensemble. On va évoquer du vin, évidemment, avec Jérôme Gagnès et la prochaine céréale ou le prochain produit céréalier à la mode qui va débarquer dans vos assiettes. C'est Elvira Masson qui vous en parle. I saw you yesterday. I was afraid of the shadow.
The evil is
When You Walk de Tchégué, vous êtes bien sur le plateau dont on va déguster sur France Inter et nous sommes en ce dimanche en compagnie d'Hugo Rollinger, fils d'Olivier Rollinger au fourneau du coquillage, la table étoilée du Château Richeux à Cancale, César Troisgros, fils de Michel Troisgros, au fourneau de la maison Troisgros.
Et de Marie-Pierre.
Et de Marie-Pierre, absolument, votre maman, Dieu sait si elle est importante dans l'univers Troisgros, vous êtes à Ouche, hein, un Éden champêtre où vous avez bougé il y a quelques temps. Vous y sentez bien, les clients sont heureux.
C'est le paradis, les clients sont heureux, surtout nous on est très heureux, parce que les clients sont heureux.
C'est ça, bah écoutez, c'est déjà un bon, c'est évidemment une bonne raison. Petit coup de cœur comme ça, j'aperçois, et d'ailleurs César Troisgros en est fait des tartines monumentales, un pot en grès, ça a l'air très rustique, avec à l'intérieur littéralement un or jaune. C'est un beurre. Votre père en avait déjà dit un mot il y a quelques temps à ce micro, vous continuez l'aventure, de quoi s'agit-il ?
Oui, mon père en avait déjà dit un mot parce que c'était au tout début qu'on a rencontré cet homme qui s'appelle Thierry Le Marchand, qui est venu nous voir avec un cheptel de 70 vaches de Froment du Léon. Et il est venu nous voir, il nous dit, moi je veux faire un beurre d'exception. Et au même moment, on était en train de rechercher un beurre non pasteurisé de variété ancienne et la vraie variété de vache à beurre est la Froment du Léon. C'est une vache qui produit entre 6 et 7 litres de lait par jour.
Donc c'est pas énorme.
C'est rien par rapport à une Primolstein.
Une pisseuse de lait, c'est ça?
Une pisseuse de lait, voilà, on peut dire. En plus, elle a la propriété de fixer le carotène de l'herbe dans le lait.
Parce que vu la couleur, on est vraiment dans le doré.
Donc on arrive à un beurre, au vrai goût du beurre, et des goûts qui disparaissent parce que c'est notamment un beurre non pasteurisé. Et il y a des ferments naturels, à la fois lactiques, aromatiques et gastriques. Donc c'est un beurre qui est très riche en goût, qui est très digeste.
Et voilà, vous l'avez goûté. Pour la santé.
Un beurre cru, vous en pensez quoi, César? Incroyable,
et, non? Oui, il est incroyable. Il est incroyable. Et puis, là, l'engagement aussi d'Hugo et d'Olivier avec ce producteur est incroyable.
Et c'est un beurre qu'on surnomme le beurre de madame.
C'est ça, oui. Pourquoi? Le beurre de madame. Parce que, en fait, c'était des petites vaches. La Froment des Léon est une toute petite vache qui restait avec les mères de famille quand les marins étaient partis en mer, à Terre-Neuve. Et c'est une vache très affectueuse. Et on disait que c'était la vache à madame.
C'est ça.
Et donc on a appelé ce beurre le beurre de madame. Mais c'est un produit merveilleux parce que c'est un produit d'engagement. Et c'est un peu un combat aussi contre les normes de pseudo-hygiène et qui tuent tous les petits producteurs.
Oui. Le beurre cru contient évidemment toute une microbiote très intéressante, y compris pour la santé. On sent que la diététique d'ailleurs et la volonté assez écologique de bâtir des filières locales, c'est au cœur de vos démarches. À 30 ans, vous êtes des jeunes cuisiniers et vous avez intégré ces préoccupations, je dirais, pour une gastronomie plus durable, César Troisgros.
Oui, c'est, je pense, la responsabilité de notre génération. Il faut essayer de défendre les valeurs que l'on a aujourd'hui, nous, avec Hugo, et l'éthique que l'on peut avoir quant au circuit court, à l'agriculture, aux sources d'approvisionnement. C'est vraiment une conviction, aider des personnes qui défendent les mêmes choses que nous, finalement. Et je pense que c'est en étant un groupe qu'on avancera.
Il en est où, votre potager, près de votre restaurant à Ouche?
Alors, cette année, c'était beaucoup d'essais à droite à gauche, 17 hectares. On a cherché un peu le meilleur endroit. Il a produit cette année des fèves d'Auvergne.
Ah!
Voilà.
Vieille variété de fèves.
Qui a disparu complètement, oui. À tel point qu'il en restait plus de 10 kilos à planter, qui était entre les mains d'une femme qui est maraîchère à côté de Ouche, qui s'appelle Corinne Duperron. Et voilà, ensemble, on a replanté cette fève pour augmenter le stock de graines. Et cet acte qu'on a partagé tous ensemble, c'est extraordinaire. Parce que finalement, une simple fève est plus rare qu'un kilo d'or. Et je pense qu'en tant que cuisinier, on a le devoir de participer à une action collective pour que demain soit meilleur.
Défense donc, c'est un combat au quotidien visiblement de la biodiversité, notamment de nos semences anciennes. Vous avez aussi la chance d'avoir des verres de vin devant vous. Petit exercice de dégustation avec notre chroniqueur Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
À vous de jouer, cher ami.
Alors Hugo et César, j'ai trouvé deux vins qui me semblaient être des vins qui pouvaient vous intéresser. J'ai regardé vos cartes. Hugo, j'ai bien aimé votre carte. J'y connais plein de vignerons. Elle est très engagée, elle est très militante, cette carte. Beaucoup, beaucoup de vins bio, en biodynamie.
Et elle va le devenir de plus en plus.
Donc, c'est un choix qui n'est pas très courant dans des établissements étoilés. Donc, ça m'a beaucoup plu. En ce qui vous concerne, César, j'ai été particulièrement heureux de constater que, fait très rare, vous proposez un très grand nombre de références de grands vins qui ont au moins 7-8 ans.
Waouh.
Et ça, c'est absolument remarquable. J'y suis particulièrement sensible parce que je considère que les vins ont souvent besoin de vieillir et sont souvent bu trop jeunes, et particulièrement des grands vins de terroir.
Comment vous l'expliquez, César, en un mot?
On est restaurateur depuis 1930 à Rouen, mais on est aussi amoureux de vin. Et les générations, mon arrière-grand-père Jean-Baptiste, mon grand-père, mon grand-oncle Jean et Pierre, voilà, ont constitué pendant des années, une cave. Et des affinités avec des liens d'amitié même avec beaucoup de vignerons, bourguignons surtout, et Côte-Rouennaise. Et ça, voilà, c'est
avec Cérolles.
Ça nous a permis de constituer une cave et d'avoir toujours la possibilité de mettre les millésimes à la carte quand on juge qu'ils sont prêts à boire.
Donc ça, c'est vraiment remarquable et c'est toujours un très grand service qui est rendu aux clients. Alors, j'avais une petite remarque à faire sur votre carte, Hugo, une petite déception, très petite.
Attention.
Vous êtes en Bretagne et j'ai trouvé que l'offre en termes de muscadet était, comme on dit quand on pêche, on était un peu monté fin sur le muscadet, j'ai trouvé.
Monté fin.
Il n'y en a qu'un seul, formidable, l'amphibolite de Jolandre. C'est un vin qui se boit au seau, qui est une merveille absolue, parce que c'est un vrai très joli muscadet, mais je pense que, et d'ailleurs Jo en fait aussi, il y a des muscadets qui sont aussi intéressants, parfois plus intéressants, des muscadets de styles différents.
Est-ce que vous recevez positivement cette remarque?
Moi, je suis ouvert. Hein. J'attends que vous me fassiez découvrir de jolis muscadets.
Eh ben, on y vient justement.
Alors justement, on y vient. Je tenais à parler du muscadet et vous m'en donnez l'occasion. Je vous en remercie mille fois. C'est une appellation fantastique, totalement galvaudée par un négoce parfaitement irresponsable qui a scié soigneusement la branche sur laquelle il était assis en vendant des océans de médiocrité dans les supermarchés. Vous savez la différence qu'il y a entre un très mauvais muscadet de supermarché et l'essence? Ils sont vendus au même prix. Aucun des deux ne sont buvables. Seulement l'essence. On fait avancer sa mobilette avec, pas avec un litre de mauvais muscadet. Donc la réalité, c'est que c'était quand même un océan de médiocrité. Et là-dedans, il y a des vignerons depuis maintenant deux générations, presque trois, et notamment un dont je voudrais parler, s'appelle Luneau Papin.
Ah bah
Pierre
oui.
Luneau Papin. Son fils, Pierre-Marie, et sa femme, Marie, donc Pierre et Monique, évidemment, la génération d'au-dessus, ça rejoint vos histoires de transmission. Neuf générations chez les Luneau Papin, un domaine qui fait aujourd'hui une quarantaine d'hectares, qui était à plus de 50. On a baissé un peu la voilure, et Pierre-Marie est en train de tout convertir au bio. Un travail remarquable, des gens formidables. J'aime beaucoup, beaucoup les Luneau Papin et j'adore leur vin. On goûte ici un Muscadet 2015, Terre de Pierre. C'est un pur terroir de serpentinite. Le Muscadet, c'est le royaume de la roche en hit. Serpentinite, spilite, amphibolite. Tous les hits de la terre sont là-bas. Ce sont des roches métamorphiques. C'est le massif armoricain. On sort du bassin parisien, c'est le massif armoricain. Terre de Pierre, pure serpentinite 2015, plus de 20 mois sur lit, c'est une merveille.
Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos amis, autour de la table, alors?
Ça goûte bien, et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de cet homme et de cette famille, en plus, qui vont dans une démarche dans le bio et dans une durabilité, parce que nous, c'est ce qu'on recherche aussi dans notre carte des vins, c'est qu'il y ait une cohérence de la cuisine, des engagements de la cuisine et à la fois dans le vin, quoi.
Mmh.
Et le vin a tellement de tabous en France, c'est-à-dire qu'on n'a rien le droit de dire, même si certains vins sont quand même des concentrés d'intrants et de pesticides et toutes ces saloperies. Et on n'a pas le droit de le dire, quoi. Et c'est pour ça que c'est...
La preuve, vous êtes devant un micro, ne vous gênez pas, hein. On le dit assez régulièrement d'ailleurs.
Oui, vous le dites, mais c'est quand même assez tabou. Et là, d'avoir un vin muscadet près de chez nous, et cette histoire de famille,
ouais, qui a l'air très intéressante. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait, qui se confond avec votre histoire dans l'esprit. Donc, je suis ravi que ça vous plaise, Hugo.
C'est intéressant. Hein.
J'ai pour vous, César, j'ai repéré sur votre carte un vin dont j'aime particulièrement l'appellation. C'est une toute petite appellation, ça fait 180 hectares. C'est niché dans un petit théâtre de vignes. C'est le village natal de Soufflot, ça s'appelle Irancy.
Ah.
C'est à 20 km au sud de Chablis. Et il y a là, vous avez l'Irancy de chez Vincent Dovissa, célébrissime vigneron de Chablis.
Depuis peu.
Qui est vigneron à Irancy depuis peu. Ouais. Et j'ai choisi de vous faire découvrir le vin d'un vigneron dont j'apprécie beaucoup le travail, et ce depuis de nombreuses années. Il s'appelle Thierry Richoux. Toujours la même histoire de transmission, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, grand-père. Lui, aujourd'hui, c'est deux garçons qui reviennent sur l'exploitation.
Donc,
il travaille avec
famille.
Ses deux fils, histoire de famille, en bio depuis quelques années. Un très joli vin que je vais vous faire découvrir tout de suite. C'est vraiment un joli
alors on change de couleur, hein, faut le préciser quand même.
On change de couleur, c'est un vin rouge, c'est
nos
un pur pinot.
Nos amis auditeurs n'ont pas l'image.
C'est un pur pinot et voilà un vin que j'aime beaucoup ce travail. C'est sur la finesse, c'est un vigneron. Aujourd'hui, je vous fais goûter un 2013, ça vient de sortir. Il vend aujourd'hui ses tout premiers 2013 sur cette cuvée qui s'appelle Vopecio. Et c'est un vin qui fera écho à votre tropisme et à votre dilection particulière pour l'acidité. Mmh. Vous retrouvez ici un pinot acidulé, très frais, assez vif et en même temps avec une jolie constitution.
Ouais, une gourmandise.
Ouais, c'est un très joli vin.
Vous nous rappelez le cépage ?
C'est du pinot noir, oui, pur. Hein, c'est un 100% pinot noir. Il y a un tout petit cépage qui s'appelle le César, hommage à votre prénom. Qui
peut être que bon, du pinot noir et du César.
Ça peut être que bon.
Un cépage local qui s'appelle César.
Qui s'appelle le César.
Vous l'avez fait exprès ou pas ?
Non. C'est vraiment très ancien.
Non, mais ça n'a pas orienté votre choix.
Mais si
non,
pense
ça
n'a à
pas.
Tout.
Ça n'a pas orienté. Non, je l'avais à l'esprit. C'est exclusivement à Irancy. Voilà, c'est un cépage qui était un cépage accessoire dans cette appellation. Ce sont des vins, l'un comme l'autre. Je reviens sur le Muscadet. 13 euros. J'ai des terres de pierre, ce vin-là. J'ai des vins de 10 ans. Ou 8 ans, parce que j'ai les premiers millésimes, j'ai des vins de ce domaine qui ont plus de 20 ans. Ça vieillit exceptionnellement bien. Donc ce sont vraiment des grands vins. À 13 euros, c'est du philanthropisme. S'agissant de l'Irancy, c'est 16 euros. On est en Bourgogne, hein. Les prix sont rutilants. Ouais. Voilà un Bourgogne qui se vend pas cher. Laissez vieillir cette bouteille 10 ans, mettez-la à l'aveugle avec quelques crus un peu plus dorés sur tranche, plus au sud de la Bourgogne, et il y a matière à rigoler.
Vous nous rappelez les références en un mot des deux cuvées ?
Muscadet sur Lys, Terre de Pierre 2015 du domaine Luneau-Papin. Et ensuite pour le rouge, Irancy, les Vopecio 2013 à 16 euros du domaine Thierry Richou.
Merci beaucoup Jérôme Gagnès, on retrouve vos coups de cœur sur franceinter.fr à la page On va déguster. On en vient, chers amis Hugo Rollinger, César Troisgros, à vos produits fétiches. Je vous ai demandé de choisir un produit qui vous anime particulièrement en cuisine. On commence avec César, devant vous.
J'ai amené des cornichons parce que les cornichons c'est l'héritage bourguignon qu'on met précieusement en conserve chaque année au mois de août, septembre.
C'est ça, c'est l'été, hein, la récolte des cornichons.
Alors moi, si je peux me permettre, les cornichons de César qui sont exceptionnels, j'ai essayé de le faire quand j'ai travaillé chez César. Après, il m'a donné 3 fois la recette, jamais réussi à le faire.
Le cornichon fait partie du patrimoine familial. Votre grand-père faisait beaucoup de cornichons. Je crois que vous en produisez quand même une centaine de kilos chaque année.
Ouais.
Travaillez main dans la main avec un maraîcher
avec
local,
Mickaël,
c'est important.
Mickaël Rollet, on l'a forcé un petit peu parce que les maraîchers, ils aiment pas trop les cornichons. C'est un peu compliqué, ça pousse très vite, il faut les ramasser tous les jours. Donc voilà, on s'est engagé, on t'achète tout. Et puis tu nous les fais chaque année. Alors là, il y a la tradition.
Moi, je voudrais faire un test sonore. Est-ce qu'il croque au micro?
Ah oui.
Ah, là, je crois qu'on peut dire qu'il croque. C'est quand même ça le premier critère de qualité. La texture, il faut qu'il croque.
C'est ce qu'il y a de plus dur à faire.
Et comment on fait un
alors,
cornichon
qui croque? Il y a la matière première. Il faut qu'il soit ramassé le matin ou le soir pour le matin. Et ensuite, la fraîcheur des ingrédients. La fraîcheur, le froid, la température.
Ah, le froid. D'accord, faut que les
donc,
ingrédients
à partir du moment où les cornichons arrivent en cuisine, il faut immédiatement les traiter. C'est-à-dire qu'on va peut-être les écoter un petit peu et on va les plonger dans la glace et on va les frotter avec de la glace pour enlever un petit peu le sable,
d'accord,
les nettoyer et pour les raffermir
les
tout
raffermir.
De suite. Et ensuite vient l'étape du salage.
Oui.
Donc le salage au frigo, le sel est froid, même le sel, on met le sel au frigo.
Mm-hmm.
Et ensuite, rinçage à l'eau glacée. Et mise en bocaux avec un vinaigre glacé.
Avec un vinaigre glacé. Et des condiments.
Et des condiments.
J'aperçois là dans le bocal de l'estragon.
L'estragon, de l'ail, des petits oignons grelots, du poivre noir.
Rollinger,
bien sûr. Mignonnette, thym, laurier, estragon. Voilà. Et alors ça, on n'a pas bougé d'un chouïa à la recette depuis, je ne sais même pas quand, peut-être 50 ans.
Votre univers, vous pratiquez beaucoup dans la famille. On peut dire qu'un des, allez, j'aime pas trop ce mot-là, mais le code génétique de la cuisine Troisgros, c'est quand même la vivacité, l'acidité, les notes aiguës. Là, je l'ai croqué.
Ça en boit.
Non, mais ça électrocute les papilles. Ouais. C'est-à-dire, il y a un niveau d'acidité qui est sublime et très excitant, mais c'est prononcé.
Ouais, mais c'est volontaire. C'est un condiment, le cornichon.
Bien sûr.
Voilà, il est là pour sublimer une tranche de pâté en croûte, un sabaudet, une tête de cochon, je sais pas, une charcuterie. Mm-hmm. Ou même un poisson, par exemple, c'est un condiment. Donc un condiment, il doit avoir un goût relevé, parce que ce qu'on va manger avec va diviser par 2 ou par 3 sa puissance.
Absolument.
À côté,
incroyable.
Je me suis amusé cette année, j'ai amené l'acidité par une fermentation. Voilà,
une lactofermentation.
À la façon d'un kimchi.
Là, vous évoquez le chou fermenté, pimenté, coréen.
Coréen.
Voilà, j'ai conduit ces cornichons comme ça. J'ai fait ça il y a un mois, quand on avait les derniers cornichons. Et on les goûte pour la première fois. Et le résultat est assez étonnant.
Ils sont très croquants.
Oui, incroyable.
C'est un nouveau, pour moi...
Joujou.
Ouais, une nouvelle exploration. Je connais très peu la fermentation. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour avoir les cornichons et en faire
davantage,
un petit peu plus. Ouais.
Que vous intégrerez dans votre cuisine.
Je pense, ouais.
Avec quoi on peut imaginer un plat comme ça?
Je sais pas, peut-être pour faire un hommage à Hugo des huîtres.
Oui, avec ce cornichon fermenté et pimenté.
Ouais, des huîtres chaudes.
Chaudes ou tièdes?
Tièdes. Chaudes, chaudes.
Non, tièdes.
Ils sont croquants, ils sont incroyables.
Ah ouais, moi incroyable. J'aime beaucoup, il y a le croquant, il y a une complexité.
Sans le piquant, on a toute l'aromatique du piment, c'est extraordinaire.
C'est vraiment une très très belle expérience, ça mériterait même d'être...
Ils sont presque meilleurs que les autres.
Ah, je dirais pas ça, c'est en tout cas quelque chose de différent. Vous arrivez à emmener le cornichon totem français vers des voies un petit peu voyageuses et vagabondes.
Un totem français, vite fait, hein, parce que les cornichons du supermarché viennent tous
c'est un peu aussi...
Vous avez raison de le signaler.
Il faut aller au marché acheter des cornichons
frais. Un engagement pour contrer tout ça. Quoi.
Ouais, absolument, vive le cornichon made in France, et c'est effectivement beaucoup rarifié ces temps-ci. Mais ça revient quand même, hein. Il y a quand même de l'espoir dans nos campagnes. Hugo Rollinger, votre produit fétiche?
Je vais parler de la Saint-Jacques.
Évidemment, c'est la saison.
On est en pleine saison.
Produit accessible, qui est vertueux. Hein, les stocks sont abondants.
Vont bien, mais si vous pouvez quand même trouver de la Saint-Jacques de plongée, c'est quand même le mieux, parce que ça évite de draguer tout le fond des océans et de ramasser n'importe quelle taille de Saint-Jacques. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de les garder. Déjà, d'aller chez votre maraîcher que vous connaissez, d'éviter les grandes surfaces de distribution, et de les emmener à la maison vivante et vraiment de les décoquiller à la minute avant de les servir.
Pourquoi ?
Pour les garder vivantes le plus longtemps, parce qu'après, une fois ouvertes, il y a des acides morbiques qui se diffusent dans les chairs et vous allez complètement supprimer le goût sucré et délicat de la Saint-Jacques. Et notamment dans le goût, mais aussi à la fois en texture. Et là, le fait de la servir vivante, vous allez quasiment avoir une mâche de Saint-Jacques cuite et vous allez avoir une belle mâche de limite fibreuse de la Saint-Jacques.
En deux gestes ou trois gestes pour la sublimer, vous l'aimez bien cru, je crois?
Bah, cru avec une belle huile d'olive, notamment de notre ami Fulvio Pierangelini.
Vous évoquez un chef italien qui a eu 2 étoiles en Toscane à un moment et qui est un grand chef italien, évidemment.
Engagé et plein de convictions et un homme que je respecte beaucoup. Avec un trait de citron, un joli piment Roario notamment.
De quoi s'agit-il?
Un piment Roario mexicain.
D'accord.
Très fruité. Puis... Faut le manger comme ça.
Et puis là, on a quelque chose
avec
à la
un
fois.
Verre de pourquoi pas de Lino Papin.
De Muscadet.
Ah oui, ce sera oui, parce et que ben voilà. Ça va qu'il y a de la puissance. Hein.
Réconciliation en direct sur le plateau dont on va déguster. Ça nous plaît la Saint-Jacques à la façon Hugo Rollinger. Et si on mangeait un peu de fric, de friquet, je sais pas trop.
On va déguster.
Friquet, fric, friquet, on s'y perd un peu, Elvira.
On a le choix. Hein.
Oui.
Hugo, César, on l'a dit, vous êtes tous deux de grands voyageurs. Est-ce qu'au cours de vos périples, vous êtes tombés justement sur cette graine? Alors fric, friquet, qu'on prononce frica, faric éventuellement. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non, moi je connais
jamais
pas.
Entendu parler.
Génial, on va vous coller.
Ce serait l'une des plus anciennes céréales au monde et on la retrouve aujourd'hui encore un peu partout en Orient. Alors il s'agit d'une variété de blé dur, surnommée blé vert parce qu'il est récolté avant maturité. La légende voudrait que des cultivateurs, essayant de sauver une récolte ravagée par le feu, aient découvert sous l'enveloppe brûlée de ce blé une délicieuse graine encore tendre, légèrement verte, au goût fumé qui avait échappé donc à l'incendie. Une autre version raconte que sous l'Empire Ottoman, les soldats de l'Empire Ottoman confisquaient souvent le blé et la farine. Donc la solution était de le récolter encore vert avant maturité. Et de le jeter au feu pour le faire sécher. Alors vrai ou pas, peu importe, hein, c'est un peu les légendes comme il en existe tant dans l'histoire culinaire. Cette histoire explique cette saveur particulière, légèrement fumée, torréfiée, cette petite graine verdâtre que je ne vous ai pas apportée, parce qu'elle n'est pas encore si simple que ça à trouver, que l'on grille pour stopper sa germination, que l'on sèche ensuite au soleil, et qui est utilisée entier ou bien concassée façon boulgour.
Ah c'est ça, voilà. Donc soit c'est en version graine verte
friquet, entière, ou boulgour de friquet.
Ou boulgour de friquet, qui est ce friquet concassé.
Exactement, donc on le cuisine comme un boulgour. En France, on le trouve dans des épiceries bio de type Naturalia, on peut l'acheter en ligne, on le trouve uniquement sous la forme de boulgour de friquet.
D'accord.
On peut trouver des sites anglo-saxons parce qu'il est déjà très très populaire en Grande-Bretagne. Donc concassé, on le prépare comme on le ferait avec un boulgour de blé ou avec du quinoa. D'ailleurs, c'est pas un hasard si je parle de quinoa, il est vraiment en passe de le détrôner. Je ne compte pas le nombre d'articles dans la presse anglo-saxonne, scandinave, qui nous chantent ses louanges nutritionnelles. Il est extrêmement riche en fibres, en protéines, en minéraux, deux fois plus riche que le quinoa. Et on dit évidemment « Freke is the new quinoa ah », jusqu'à oui. ce qu'une nouvelle graine remplace le Freke dans quelques années. C'est d'ailleurs dans la presse anglo-saxonne, dans la food section de The Independent, que j'ai trouvé une recette de salade qui me paraît extrêmement facile à faire, tout à fait à ma portée. Et efficace.
Salade de Freke.
Salade de Freke que l'on cuit d'abord un tout petit peu au four avec de l'huile d'olive dans un plat au four.
D'accord, à sec hein ?
À sec, l'eau intervient plus tard, 5 minutes à 200 degrés. Puis ensuite on le passe à la casserole une dizaine de minutes dans un bouillon de légumes. Mm-hmm. On laisse refroidir, on réserve et on accommode ça avec de la trévise hachée, des grains de grenade, des morceaux d'une bonne feta de bonne qualité, pas
Orient,
trop salée.
Quand
voilà,
tu nous tiens, ouais. C'est ça.
Deux œufs durs, pourquoi pas très oriental, mais quoique. Concombre en julienne, mais tiens, un peu de cornichon haché, pourquoi pas. On n'a qu'à tout mélanger, voilà. Faire une espèce de grand maison de
pote.
Faut pas les hacher trop fin.
Non, pas hacher trop fin.
Il faut qu'il y ait de la mâche.
On prépare une vinaigrette. Alors là, évidemment, c'est un site anglais. Donc, outre le jus de citron, sel, poivre, huile d'olive, vinaigre de vin rouge, moutarde de Dijon, un peu de sauce Worcestershire. Hein, c'est un site britannique.
Worcestershire sauce.
Worcestershire.
Imprononçable.
Un peu d'origan, on mélange un peu tout,
sauce
n'importe
anglaise.
Quoi.
Sauce
et c'est ça, sauce anglaise. Et au moment de servir, on met un petit peu de tranche d'avocat. On ne le met pas au milieu, en plein milieu de la préparation. Sinon, c'est un, ça noircit, puis deux, ça fait un peu désordre. Voilà pour la touche un peu,
elle
un
me
peu
plaît,
fusionnante, dans l'air du temps.
Vous nous la préparez un jour ?
Ouais, enfin, je vais surtout mettre la recette sur le site, ce sera plus.
C'est ça, mais volontiers, en tout cas, elle nous fait très envie. Alors, c'est vrai que le Freke, il est parfaitement inconnu encore, même s'il pointe le bout de sa graine dans les pays anglo-saxons. En France, il est inconnu, et pourtant, il entre dans la composition de beaucoup de recettes orientales.
Notamment la chorba frik. Vous savez, la chorba, c'est traditionnelle soupe algérienne. Chorba frik, c'est donc une soupe à la coriandre, oignon, menthe, Freke, bien sûr, dans laquelle on trouve de la viande d'agneau. En Égypte, on pratique le pigeon farci au Freke. Au Liban, en particulier dans le sud, on dit Freke. Le Freke bdjej, c'est Freke blanc de poulet, oignon. Et en Syrie, à Alep en particulier, on sert, ou on servait, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dire, traditionnellement, le Freke avec du riz, présenté sous forme de strates, de couches, une première couche de Freke, puis du riz, puis de la viande d'agneau ou de poulet, des fruits secs. Dans d'autres villes de Syrie, on le sert avec des petits pois, on le sert éventuellement sans riz. C'est vraiment une graine que l'on sert ou servait beaucoup en Syrie. Ceci nous rappelle encore une fois à quel point la cuisine syrienne est riche et subtile. C'est l'occasion de dire un mot de Cook for Syria,
oui.
qui est une initiative caritative née l'an dernier, en 2016, en Grande-Bretagne, sous l'impulsion de l'ONG NextGen pour l'UNICEF, mais qui a essaimé un petit peu partout dans le monde. Elle a essaimé un peu plus mollement en France, dont le but est de venir en aide aux enfants victimes des plus grandes crises humanitaires au monde. Ça a commencé au début du mois, cette deuxième édition de Cook for Syria. Ça se termine à la fin du mois de novembre. Des dîners caritatifs, des restaurants où on peut goûter un ou plusieurs plats hommage à la cuisine syrienne et dont 2 euros minimum sont reversés à l'UNICEF. Mmh. C'est le cas notamment chez Pierre Sang, dans le 11e. À noter également aujourd'hui, vous avez encore une heure pour réserver chez The Hood, rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e toujours, un brunch en hommage à la cuisine syrienne.
Wow.
Également, dont l'intégralité de la recette ira au fonds de soutien aux enfants syriens de l'UNICEF. Si vous ne pouvez pas ou n'avez pas le temps, vous pouvez aussi aller sur le site cookforsyria.com, acheter le livre de recettes dont les bénéfices vont à l'UNICEF et dans lequel il y a évidemment des recettes avec du Freke.
Merci beaucoup,
nous,
Elvira.
Pour Cook for Syria, nous faisons une opération
Hugo Rollinger.
Aussi.
Ah, super.
Pour une poudre Zaatar achetée dans nos épiceries, il y a 2 euros qui sont reversés pour cette
magnifique.
Association.
Et ben voilà, et le Zaatar, on précise que c'est un mélange d'épices, le levantin, avec du thym notamment,
ouais, c'est ça,
des graines
sumac,
de sésame.
Ouais. Sumac, sésame.
Parfait. Ouais.
Bah, ça écoutez, irait très bien ça, dans la salade de Freke.
Ben voilà, et ben écoutez, épreuve une fois de plus, évidemment, que la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. On est d'accord avec ça ?
Ça va au-delà des frontières, surtout.
Et ça va au-delà des frontières. Merci à tous les deux d'avoir fait votre première à la radio sur France Inter
merci
avec
à
nous.
Vous.
On est ravis de vous avoir accueillis. Maison Trois Gros, un Éden écologique pour goûter la cuisine 3 étoiles de Michel et César Trois Gros. C'est à Ouche, à quelques kilomètres de Roanne, le coquillage, la table du Château Richeux, pour se frotter à votre cuisine. Hugo Rollinger, une cuisine, on l'a compris, sensible, instinctive, marine, doucement épicée. Dans un instant, Ali Badou anime Questions politiques. Et la semaine prochaine, je l'ai dit, nous serons à Bordeaux pour une émission en direct et en public du Festival So Good. Vous serez du voyage, Elvira.
Bien sûr.
Et on espère que le public viendra nombreux. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.